c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Que vous pouvez, je l'espère, et je vous souhaite le bonjour, et ce bonjour est à souhait de beau temps, de bonne humeur, de bon succès, et c'est bien sincèrement que je vous l'adresse. Alors justement, il faut prendre la vie du bon côté en toutes circonstances, et pour cela, eh bien, on suit les conseils des bandits manchots.
C'est pas sérieux. T'es planté, lessivé, à moitié sonné. Toutes les nuits, à cor et à cri, c'était fameux. Médusé, tu as tout donné, elle t'a blousé. Et même si le ciel te tombe sur la tête, prends tes jambes à ton cou et chante à tes têtes. Zap to way, flip from zig des zag to day.
Prendre la vie du bon côté, c'est une chouette philosophie. On n'est pas là pour se faire de la ville, tap tap dans le mille.
Ce matin, le patron t'a dit c'est terminé. Il y a un plan de licenciement pour nous sauver. De rien, ton banquier sourit, plus de chéquier. Cette canaille te met sur la paille sans un regret. Et même si le ciel te tombe sur la tête, prends tes jambes à ton cou et chante à ta tête.
Oubap, choubam, ribap, du bam, oubap, petit, le bap, bap, doué. Prends la vie du bon côté, c'est
de ta télé. Turbulence politique. salle à la clé. T'es à cran, la rage te pique, faut dégager. Pas de chance, pas de fric, vaut mieux rigoler. Et même si le ciel te tombe sur la tête, prends tes jambes à ton cou et chante à tue-tête.
Prendre la vie du bon côté, c'est une chouette philosophie. On n'est pas là pour se faire la ville, tap tap dans le mille. Prendre la vie du bon côté, c'est une chouette philosophie. On n'est pas là pour se faire la ville, tap tap dans le mille.
Ah, tenez, une nouvelle très importante dans l'air du temps, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre les brevets logiciels. Eh ben oui, c'est important ça comme information. Vous vous en fichez. Bon, pour tout vous dire, moi aussi, hein. Par contre, dans cette émission et dans notre rubrique « Saletant sur la planète », j'accueillerai à nouveau Pierre Rose et comme il se doit avec lui, nous reparlerons compteur parce que il y a le Linky, dont Pierre nous a déjà beaucoup parlé, mais il y a aussi le Gaspard et les nouveaux compteurs d'eau qu'on appelle tous les compteurs communicants. Dans notre séquence jardinage bio, nous parlerons olives et je suis certaine qu'avec Amine Grandi, vous en apprendrez beaucoup sur la culture des olives et sur la façon d'en tirer de l'excellente huile et puis bien sûr sur la façon de choisir cette huile. D'ailleurs, c'est quoi la bonne huile d'olive? On s'y perd un petit peu avec toutes les appellations vierge extra, pression à froid, bio, avec les provenances aussi. Bref, Amine Grandi nous éclaire. Et c'est un sujet qu'il connaît bien puisqu'avec sa femme Aurore, eh bien, ils sont producteurs. Enfin et enfin, à la fin de l'émission du culturel avec ce festival de la photo qui se tient chaque année à Anzin près de Béthune. La photo est un art et vous savez bien qu'une œuvre d'art exprime le monde intérieur de l'artiste. Ce monde qu'il n'est pas interdit de partager avec d'autres, avec quelqu'un quoi.
Rêve d'un clair de lune et d'une balade en bateau. Ton cœur cherche fortune, un oiseau rare, un gros lot. Tu te contenterais même d'un amour moyen, pourvu qu'il y ait quelqu'un. Tu le vois grand, s'il est petit, ça fait rien. S'il te prend la main.
groupe Châtel sur Radio Plus. Alors notre petite enquête dans l'air du temps, les chasseurs ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines. Et oui, la démission de Nicolas Hulot est intervenue au lendemain d'une réunion où le prix du permis de chasse national est passé de 400 à 200 euros. Alors afin d'obtenir la caution de la population, eh bien les chasseurs veulent faire passer leur loisir pour un impératif de service public, se prétendant indispensable à l'équilibre de la faune. Qui peut croire que leur motivation relève d'un quelconque souci de régulation? En effet, chaque année, près de 20 millions d'animaux, c'est-à-dire des faisans, des lièvres, des lapins, des perdrix, etc., sont élevés ou importés pour être lâchés par les chasseurs dans la nature, parfois le matin même de la partie de chasse, et ceci dans l'unique but de fournir suffisamment de cibles vivantes. Comment ose-t-il, face à ces faits, évoquer la régulation? De plus, les prédateurs authentiques régulateurs naturels sont systématiquement détruits par les chasseurs. Renards, martres, fouines, belettes, putois sont même classés nuisibles, un non-sens écologique, et sont ainsi tués toute l'année. Quant aux prédateurs protégés, en particulier les loups, ils subissent la pression des chasseurs qui obtiennent chaque année des autorisations de tir lorsque ce n'est pas en toute illégalité que des individus sont tués. À l'instar du pompier pyromane, la chasse s'entretient elle-même. Tuer les prédateurs, élever et lâcher des millions d'animaux pour ensuite avoir l'hypocrisie de se mettre en position de sauveur, de se prétendre régulateur, indispensable, relève de la pure imposture. Mais qu'est-ce que vous voulez? La filière chasse est un atout made in France. La filière chasse française génère chaque année près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et elle apporte 2,3 milliards d'euros au PIB, c'est-à-dire au produit intérieur brut. C'est sa contribution à la richesse nationale. Et oui, tuer, il en restera toujours quelque chose.
Sur une boîte de conserve, sur un pigeon d'argile, vin Dieu, c'est pas pareil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut de la chair tiède avec du sang vermeil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut que ça palpite de plumes et de ramages. Il faut que ça ait peur, il faut que ça se sauve, bref, que ce soit sauvage. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la soupape des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Chaque mois de septembre, le plumet au chapeau, ils partent comme en 40. Animer la flamme du chasseur inconnu qu'avait du poil au ventre. En carte comme les putes, il drague à embouiller, il tapine en Sologne. Mais quand ils tirent leur coup, le client de passage se réveille charogne. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le coït des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Regardez les marchés, l'arrogance au visage, le cœur sur la gâchette. Ces spadassins rentrés, ces héros d'épinal, ces tueurs de fauvettes. Regardez les marchés, ces arrobes de banlieue, ces Hemingway de Neuilly. Vers le trou à lapin, vers la mare à canard, y faire leur safari. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la villette des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de peur. Les soldats, ça s'enraye, les soldats, ça se rouille, c'est comme les carabines.
Ton service militaire, tu continues plus tard à coups de chevrotine. Pour le chasseur français, il y avait le perdre aux boches ou le lièvre félouse. Pour le chasseur franquiste, l'anarchiste rouge-gorge et la chienne andalouse. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le petit Vietnam des frustrés. La chasse, c'est la guerre permise aux hommes en temps de paix. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le petit Vietnam des frustrés. La chasse, c'est la guerre permise aux hommes en temps de paix.
Henri Tachant sur Radio Plus, et tout de suite avec nous Pierre Rose, secrétaire de l'ACAD, c'est-à-dire collectif anti-compteur communicant ardois d'Ouézi.
Sur la planète, oh le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Pierre Rose, bonjour. Pierre Rose, vous n'êtes pas chasseur.
Et non, j'ai apprécié l'éditorial au vitriol. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous faire des amis, hein. Enfin, je trouve que la chanson de Henri Tachant est extraordinaire. Et évidemment, tout le monde sait que les chasseurs sont des défenseurs de l'environnement, puisqu'ils sont membres, ils sont responsables même, président de la commission environnement régionale, et que toutes les associations, un tour soit peu critiques vis-à-vis de la chasse, ont vu leurs subventions ramenées à zéro.
Oui. Alors, c'est vrai que je ne me fais pas que des amis, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est une conviction que je défends ardemment, Pierre, voilà.
Je partage.
Alors, justement, je vous adresse un bonjour bien amical. Bonjour, Pierre. Alors, nos auditeurs commencent à bien vous connaître et je rappelle que vous êtes le secrétaire du collectif ACAD, c'est-à-dire anti-compteur communicant de l'Artois d'Ouézi. Avec vous, nous avons beaucoup parlé du Linky et je pense qu'à présent, chacun sait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, on invite Gaspard à notre table et vous nous expliquez qui est Gaspard.
Alors Gaspard, c'est un compteur à gaz. C'est le même genre que Linky, hein. En fait, c'est un compteur-capteur, un compteur qui normalement crée des impulsions simplement pour compter l'avancée, la consommation, tandis que le capteur, lui, c'est un petit ordinateur. Donc ça veut dire que d'une part, on va savoir combien de temps ça va durer avec des piles au lithium. C'est pas du tout évident que ça va durer 20 ans. Alors en principe c'est deux fois par jour seulement, c'est la différence avec Linky, hein, le Gaspard lance une émission d'une seconde, et donc c'est pas tout à fait la même dangerosité. Mais d'un autre côté, on a aussi un concentrateur qui répercute des fréquences de 2,5 gigahertz, c'est-à-dire 2,5 millions de hertz, à comparer avec Enedis qui est de l'ordre de 2,4... Non, je dis pas giga, c'est milliard, je me suis trompé. Et donc, par rapport à un micro-ondes qui fait 2,45 gigahertz, c'est-à-dire que c'est beaucoup... Enfin, c'est un peu du même genre, mais c'est pas du tout la même portée, hein. Alors, donc, sa collecte passe par le récepteur GRDF dont on va parler après.
Alors, lors de notre dernière entrevue, vous nous avez fait comprendre que votre rébellion ne concerne donc pas uniquement le compteur Linky, mais aussi tous ceux qui sont soi-disant intelligents, c'est-à-dire communicants. Et justement, après Linky, eh bien, c'est Gaspard qui fait parler de lui.
Oui, je laisse de côté le compteur à eau qui est du même style, hein, mais bon, pour l'instant on va parler de Gaspard. Gaspard, c'est GRDF qui s'en occupe. GRDF, c'est une filiale à 100% d'Engie. Et donc le déploiement a démarré en 2017 et concerne seulement 11 millions de clients en gaz naturel, contre 35 millions pour le Linky. Alors, il faut dire qu'ils ont une pratique totalement différente. C'est ce que disaient les échos. C'est une ça doit être le mot d'ordre, c'est prudence et discrétion. La filiale chargée de la distribution veut à tout prix éviter les polémiques qui ont pénalisé les compteurs électriques Linky. Donc c'est déjà une sacrée différence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avancent beaucoup plus vite.
Mais alors, Pierre-Rose, je vais vous reposer la même question posée pour le Linky. Cette installation est-elle utile, finalement ?
Pour l'usager. Alors, l'usager, puisque on parle d'usager et non pas de client. Pour moi, je parle d'usager. L'avantage, c'est on n'a plus besoin de rester une demi-journée pour ouvrir sa porte au releveur. Mais l'inconvénient, il y en a beaucoup d'inconvénients. D'une part, l'inconvénient de cet avantage, c'est que des personnes se déplaçant peu perdent de cette visite, comme celle du facteur qui est maintenant, paraît-il, payante. Alors, ces impulsions que le Gaspard envoie deux fois par jour sont multipliées par le nombre de Gaspard. C'est-à-dire que ça commence à devenir ce qu'on appelle un smog, c'est-à-dire un brouillard pas possible, et c'est ce cocktail qui est tout de même assez grave. Alors, c'est d'autant plus grave qu'on est en train de mettre en place tout ça pour Linky, comme pour Gaspard, la 5G. Alors 5G, c'est quelque chose qui va permettre de supprimer des arbres, parce que des arbres dérangent le 5G, et il y a déjà des villes pilotes comme à Nantes, Lyon, Toulouse, Lille d'ailleurs, Grenoble. Alors, la contrepartie, c'est qu'on pourrait savoir quelle est notre consommation, mais disons que c'est pas le point principal des utilisateurs de gaz. Mais évidemment, de ce côté-là, on est toujours un peu tributaire de cette problématique. Et je pense qu'il faudra parler de la surfacturation, d'ailleurs, au niveau des compteurs à gaz, parce que ça devient important.
Alors justement, d'après ce que vous venez de nous dire, Pierre, eh bien, parce qu'on a beaucoup parlé de la dangerosité du compteur Linky. Donc, d'après ce que vous venez de nous dire, Gaspard serait quand même un petit peu dangereux, bien qu'ils affirment le contraire.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est dangereux, pas pour la même raison. C'est-à-dire que d'une part, il y a les mêmes inconvénients, c'est-à-dire il n'y a plus de relevé à pied, donc beaucoup de mises à pied, environ 2 à 3 000. On va vendre des données, même si c'est, théoriquement c'est interdit, hein, mais comme on n'aura pas la possibilité de vérifier ce qu'ils font, on va se retrouver avec la même problématique que pour le Linky. Et puis après, il n'y aura plus du tout de contrôle visuel, c'est-à-dire que comme le gaz est beaucoup plus dangereux, eh bien, celui qui passe, c'est tout ça, et a tout de même un certain moyen de vérifier. Là, on va vérifier à distance, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que on ne s'occupe plus de voir les... Bon, ça fait partie déjà de la dangerosité de la problématique, surtout sur le gaz.
Alors, justement, bon, bah, si c'est pas très utile et puis si c'est dangereux, quels sont les arguments de GRDF pour installer ce Gaspard? Et ces arguments sont-ils fiables?
Bah, des arguments, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent que à partir du moment où il y a un compteur qui dure depuis trop longtemps, évidemment, il n'est plus fiable. Donc, il faut le remplacer. Et comme ils veulent une politique totale de remplacement, ils donnent cet argument qui n'a pas de sens, parce que remplacer un compteur qui fonctionne par un autre compteur qui est beaucoup plus gênant, c'est exactement dans la même idée que le Linky, c'est-à-dire c'est absurde économiquement, et puis évidemment c'est absurde écologiquement.
Alors, autre question, vous parlez économiquement, mais autre question pour l'usager, ce compteur Gaspard sera-t-il ou est-il gratuit?
Alors là, il faudra payer, comme d'habitude. Il faudra payer le compteur, hein, comme pour Linky. Il faudra d'ailleurs, après, l'autre problème, c'est que j'ai parlé de surfacturation. Il y a des exemples qui ont été donnés, plusieurs exemples qui ont été donnés par Que Choisir sur leur site. Et donc, cette facture peut être multipliée par 2, voire 3, voire 5 fois. C'est aussi inefficace. Alors, on lance un produit dangereux, on ne vérifie pas tout. Principe de précaution. On veut que ce soit profitable tout de suite, le plus vite possible. Alors, quand je dis profitable, c'est profitable pour Engie, évidemment.
Alors, il y a beaucoup de communes réfractaires à la pose du compteur Linky et beaucoup de particuliers qui l'ont refusé, et pour cause. Mais Pierre, justement, peut-on s'opposer à la pose du Gaspard?
Bon, de la même façon, parce que je vais être très court, de la même façon qu'avec le Linky, c'est-à-dire une lettre à GRDF à Paris, 6 rue Cour d'Orsay, une lettre au maire, et puis barricader quand on a le compteur à l'extérieur. Et la particularité, c'est là qu'on peut... c'est intéressant, c'est que GRDF a besoin de l'accord de la commune pour installer ses répartiteurs. Et donc, si les communes refusent, eh bien là, ils sont coincés. Mais ils vont évidemment essayer de se défendre, hein. Ils vont essayer de passer outre en allant chez les particuliers.
Bien
évidemment.
Sûr.
Donc, au moyen d'un dédommagement.
Comme toujours.
Bien sûr.
Alors, et puis, on peut peut-être, Pierre, prévenir que des gens malhonnêtes profitent de l'installation de ce nouveau compteur pour essayer justement de s'introduire sous un prétexte fallacieux chez les usagers, hein.
Oui, on a eu connaissance de quelques faits de ce genre, avec une casquette GRDF qui n'en est pas une, etc. Ouais. Donc la première précaution, c'est de demander à voir les papiers. Deuxième précaution, c'est de poser des questions avant d'éventuellement faire rentrer quelqu'un. Puis surtout, la dernière recommandation, c'est faire rentrer le moins possible et surtout ne pas changer de compteur.
Tout à fait. Alors Pierre-Rose, on rappelle que le site du collectif ACAD, c'est-à-dire A2CAD, donne beaucoup d'informations sur ces compteurs communicants, et en tant que citoyens avertis et actifs, eh bien nous devons bien sûr d'être informés afin de pouvoir faire un choix, n'est-ce pas?
Tout à fait. Je ne vais pas faire la pub pour ce site. C'est un site qui explique pas mal de choses. En principe, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il y en a d'autres qui sont aussi intéressants, évidemment, mais disons qu'on donne des informations pour le secteur.
Voilà. ACAD, A2CAD. Et puis, on donne peut-être quelques dates de réunion publique?
Oui. Alors, Liévin, ça sera pour mardi à 18h, Cité de l'Espérance, Salle de l'Espérance, dans la Cité Calonne, à 18h. Bille-Montigny, c'est la salle d'œuvre sociale, à 18h également, ce sera le mercredi 26. Après, en perspective, au mois d'octobre, il y aura Méricourt. Et surtout, j'insiste beaucoup sur, d'une part, les interventions sur différentes radios de la région, dont la vôtre, évidemment. Et j'insiste surtout sur la journée qu'on veut essayer de mettre en place, c'est-à-dire le samedi 6 octobre au matin à 10h30, des rendez-vous dans différentes communes, que ce soit Grenay, Lens, Liévin, Angres, Louvain-Planque, Le Forêt, pour pouvoir devant les mairies dire un peu témoigner des différents problèmes. Et puis après, un rassemblement de toutes ces personnes avec un pique-nique devant la mairie de Lens à 12h. Voilà, on espère qu'il y aura du monde, parce que ça devient de plus en plus important. Il faut se battre, parce que il y a de plus en plus de problèmes.
Tout à fait. Et puis en tout cas, tous ces renseignements, on les retrouve bien sûr sur votre site ACAD.
Absolument.
J'insiste, A2CAD. Pierre-Rose, merci d'avoir été une fois encore avec nous pour nous éclairer, sans jeu de mots, hein, sur ces offensives. Et je dis, comme à chacune de vos interventions, bien sûr, à suivre.
Oui, surtout que j'ai devant moi, sous les yeux, la pochette du disque d'Henri Tachant.
Merci.
Allez,
Pierre,
à bientôt.
Et très bonne journée à vous.
Merci de nous avoir accueillis, Martine.
Merci.
Mais vous voulez tout, l'eau et l'électricité, le tout à l'égout, le pétrole à volonté, quoi de plus encore? Pourquoi tant d'avidité, vous tentez le sort? N'allez pas nous imiter, nous voulons du gazon vert, des palais de marbre blanc, une ville en plein désert, mille joyaux scintillants, tout comme vous. Ces calamités, ces coulées de boue, tous ces oiseaux mazoutés, la faune et la flore, périclite à toute allure, nous semons la mort. Il faut sauver la nature, nous voulons des tours de verre, des rivière de diamants, un casino sur la mer, une pluie d'or et d'argent. Faut-il en vérité, les marchés sont fous, les ressources limitées, nous perdons le nord, il n'est plus temps d'hésiter, pour rouler sur l'or, tout est à réinventer, nous voulons voir que l'hiver, en 3D sur grand écran, les maîtres de l'univers, et la belle au bois dormant, nous voulons voir que l'hiver, en 3D sur grand écran, de l'univers et la belle au bois dormant.
Lafaille sur Radio Plus. Alors, elle est un des fondements de la cuisine méditerranéenne et peut-être sous certaines conditions bénéfiques pour la santé. L'huile d'olive est connue depuis la plus haute antiquité. Les Grecs anciens, les Phéniciens, les Arabes, les Berbères et les Romains l'utilisaient déjà pour leur cuisine, à l'origine de la cuisine méditerranéenne, et pour leurs produits cosmétiques, ainsi que les Hébreux pour allumer leurs chandeliers. Il y aurait beaucoup à dire sur les oliviers, les olives et l'huile qu'on en extrait, mais dans cette rubrique consacrée au jardinage bio, eh bien nous nous en tiendrons qu'au meilleur choix à faire pour notre consommation alimentaire.
La vie, c'est naturel, ça donne envie d'avoir des ailes. B-I-O, bio, bio, c'est bio la vie. C'est bio la vie, rend la vie belle.
Ça fait bien aller à la selle.
Alors dans cette rubrique consacrée au jardinage bio, eh bien je reçois cette semaine, en l'absence de Bertrand Trinel, Amine Grandi, producteur récoltant d'huile d'olive. Les Français sont de plus en plus nombreux à adopter l'huile d'olive, cet or jaune dont les effets bénéfiques pour la santé restent indéniables. Oui, mais voilà, en tant que consommateur, on s'y perd un peu entre les termes vierge, extra, pression à froid, bio aussi. On devine que toutes les huiles d'olive ne se valent pas. C'est comme pour le miel, c'est comme pour le vin, et il faut savoir prendre certains critères importants en considération. Amine Grandi, bonjour.
Bonjour Martine et bonjour à tous vos auditeurs.
Alors vous êtes un passionné, Amine, et vous et votre compagne Aurore, vous êtes producteur d'huile d'olive et c'est donc un produit que vous connaissez parfaitement bien. Pas toujours facile pour nous, en revanche, pour nous consommateurs, de bien choisir son huile d'olive. Alors Amine Grandi, quelle est la première chose qui doit orienter notre choix ?
Alors, exactement comme pour un dégustateur, le choix d'une huile d'olive se fait d'abord par l'olfaction. C'est-à-dire, il faut sentir l'huile d'olive. Une huile d'olive de bonne qualité, elle ne doit pas avoir de défaut à l'olfaction. Ça, c'est une première chose. Si on sent une huile d'olive et qu'on sent une odeur désagréable ou qui n'est pas une odeur séduisante, c'est que l'huile d'olive n'est pas de très bonne qualité ou n'est pas de qualité. Alors, une fois qu'on a senti l'huile, une huile d'olive de bonne qualité, elle doit sentir un légume, des fruits, des feuilles, elle doit sentir quelque chose de végétal. Ça, c'est la priorité des priorités. D'abord, au nez, il faut sentir une huile d'olive pour commencer à voir si elle est de qualité ou pas. Ensuite, on peut la déguster, on doit la déguster pour vraiment savoir comment elle est, cette huile d'olive. Et à la dégustation, on doit confirmer ce qu'on a senti au nez. C'est-à-dire, si on a senti de l'artichaut, une senteur artichaut au nez, à la dégustation, en bouche, on doit confirmer cette odeur agréable d'artichaut. Alors, il y a trois attributs positifs aussi à la dégustation. L'amertume, une petite amertume d'une huile d'olive, c'est un signe de qualité. Une légère ardence au niveau de la gorge, c'est un signe de qualité d'une huile d'olive. Un piquant au niveau de la langue, c'est aussi un autre signe de qualité d'une bonne huile d'olive. Voilà les trois points sur lesquels au nez, à la bouche, l'ardence, l'amertume et le piquant. Ça, c'est les trois signes qui doivent guider notre choix d'une bonne huile d'olive. Et c'est pour ça que nous, lors de toute manifestation, on demande et on propose et on offre une dégustation à tous les passants, les consommateurs, pour vraiment se rendre compte ce que c'est qu'une bonne huile d'olive.
Oui, certes, Amine, mais quand on choisit son huile d'olive en grande surface, c'est pas toujours possible.
Bon, c'est vrai. Alors, en grande surface, là, enfin, on est plein dans l'actualité. La DGCCRF vient de publier une étude où 48%, à peu près la moitié des huiles commercialisées en France, je dis bien en France, ne respectent pas la mention vierge extra. Et donc, dire qu'il faut lire sur l'étiquette huile d'olive vierge extra, enfin, presque 100% des étiquettes sont mentionnées comme ça. Alors, ce qu'il faudrait privilégier, c'est, un, il faut que l'huile d'olive soit vierge extra. Essayer d'acheter, si on peut, directement au producteur d'huile d'olive. Là, on a quand même une chance de ne pas avoir une huile d'olive de mauvaise qualité. Et deuxièmement, éviter les assemblages type provenance de pays européens et non européens. Là, on ne sait pas ce qu'on achète, de quel pays. Privilégier des petits producteurs plutôt que des assemblages de différentes années, de différentes récoltes. Et voilà. Et donc, si vous voyez un pays, un producteur, une date de récolte, éventuellement un taux d'acidité de l'huile d'olive, c'est quand même un gage, une certaine transparence et un gage de qualité d'une huile d'olive.
Alors Amine Grandi, la provenance de l'huile d'olive que vous distribuez, vous et la Tunisie, un pays qui devient le quatrième fournisseur mondial en huile d'olive, et pour cause, parce qu'il n'y a pas de traitement phytosanitaire, et vous nous dites pourquoi.
Alors, juste une petite précision, Martine, si vous le permettez.
Je vous en prie.
La Tunisie, l'année dernière, a eu une production record et elle est devenue le deuxième producteur mondial d'huile d'olive, après l'Espagne. L'Espagne reste un pays où la surface est relativement importante par rapport à la Tunisie. Donc la Tunisie est le deuxième pays producteur mondial d'huile d'olive après l'Espagne. Alors, pour ce qui est du traitement phytosanitaire en Tunisie, la Tunisie est un pays où l'ensoleillement il est considérable, donc il n'y a aucun problème de soleil et d'ensoleillement. La température en Tunisie elle est relativement élevée par rapport surtout l'été, donc ce n'est pas du tout un climat propice aux maladies. Et alors, ce qui permet aussi d'éviter ce type de maladie, c'est qu'on a un climat très sec, surtout l'été, et la distance entre deux oliviers, elle peut atteindre 25-32 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre deux oliviers, on a entre 25 et 32 mètres. Dans certaines régions, on peut avoir 25 et 32 mètres de distance. Donc, même en cas de maladie, la contamination, elle est très, très, très difficile. Donc ça, c'est quelque chose qui permet naturellement d'éviter, un, l'utilisation des produits phytosanitaires, et deux, d'avoir une protection naturelle due au climat très sec. Donc, quand il y a des larves, vu la sécheresse et la température, il n'y a pas trop d'humidité, donc ça permet d'éviter naturellement les maladies et les contaminations entre les oliviers. Après, moi, à titre personnel, systématiquement, tous les ans, dès que je vois une petite branche qui commence un peu à flétrir ou à devenir un peu sèche, pour éviter, contamination, j'élague systématiquement toutes les années mes oliviers et je brûle un peu le bois malade ou pour éviter les contaminations. Voilà, enfin le traitement naturel qu'on utilise, sur mon oliveraie, c'est ce que je fais.
Donc, j'en conclus qu'il est inutile de faire figurer le logo AB sur la bouteille, en l'occurrence sur les vôtres, puisque de toute façon, cette huile est biologique presque par nature. Et, comme je disais, c'est le cas de la vôtre.
Alors, je certifie que mon huile, et moi, à titre personnel, je peux vous certifier que mon huile, elle est naturellement produite. D'ailleurs, l'engrais biologique, le seul engrais biologique qu'on utilise, c'est l'engrais naturel qu'on rachète aux éleveurs de moutons et de vaches un peu autour de notre livret. Donc on récupère un peu, on fait de l'économie locale, on récupère un peu l'engrais biologique des éleveurs et on fertilise notre terrain comme ça. Alors, pour ce qui est du logo AB biologique ou agriculture biologique, il faut savoir qu'une huile d'olive se déguste à la bouche et on la sent au nez. Le fait d'avoir un logo AB ne certifie pas que l'huile d'olive elle est de bonne qualité, et le fait de ne pas avoir le logo AB ne veut pas dire que l'huile n'est pas de bonne qualité. Mmh. C'est-à-dire, il faut rendre César à César. Ce logo AB certifie une agriculture peut-être biologique. Cela a été certifié par un organisme de certification, qu'il faut payer d'ailleurs, entre parenthèses. Mmh. Ça ne peut en aucun cas certifier que l'huile, elle est de bonne qualité. L'huile d'olive est de bonne qualité. Donc il faut faire le distinguo entre agriculture biologique, c'est peut-être une agriculture biologique, mais ça ne veut surtout pas dire que l'huile d'olive est de très bonne qualité ou est de bonne qualité.
Donc on a vu avec vous, Amine Grandi, ce qu'était une bonne huile d'olive. Alors par contre, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et grâce à vous, je dois dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas des olives vertes et des olives noires, mais il n'y a qu'une seule olive.
Alors, il y a bien, je confirme bien ce que vous dites, Martine, il n'y a qu'une seule olive sur un arbre, elle est d'abord verte, elle commence verte comme une pomme verte, et petit à petit, avec la maturation, elle commence à changer de couleur. Mmh. Ensuite, elle commence à passer un peu au violet, elle change, elle devient verte-violette, et après, petit à petit, elle commence à s'assombrir pour devenir violet-noir, et après, elle devient tout à fait complètement noire. Donc c'est la même olive, c'est sur le même olivier, la couleur change en fonction de la maturation de l'olive. Et nous, pour essayer un peu de nous adapter un peu au palais de chacun, on a fait une récolte avec des olives vertes, ça donne un fruité vert, le goût il est très herbacé, très végétal de notre huile d'olive, et après on a fait une récolte, ce qu'on appelle tardive, et ce qui donne un goût fruité mûr, et là l'olive elle est violette, et ça donne un goût d'huile un tout petit peu plus douce, avec un léger poivré en fin de bouche qui est très agréable, qui peut être un exhausteur de goût dans les plats.
En tout cas, l'huile d'olive que vous produisez est excellente. Alors le secret, c'est quoi? C'est au niveau aussi de la mouture peut-être?
Alors, pour exactement au niveau de la trituration, disons que le fruit, il est vierge dès qu'on le cueille, et c'est à partir du moment qu'on commence la cueillette, et pour l'emmener jusqu'à l'huilerie, pour la triturer, pour la mettre en bouteille, c'est là où on peut fabriquer une excellente huile d'olive. Alors, pour obtenir une qualité exceptionnelle d'huile d'olive, il faut respecter certaines règles simples. Il faut que la récolte de l'huile d'olive se fasse à bonne maturité de l'olive. Il ne faut pas recueillir trop tard, sinon on va avoir une quantité d'huile, certes, et un rendement meilleur, mais la qualité d'huile d'olive, elle va se détériorer. Et après, il faut avoir des délais très courts, ou les plus courts possibles, entre la récolte et entre la mise en bouteille de notre huile d'olive. Nous, on fait tout ça en une journée pour essayer d'avoir, c'est-à-dire entre le moment où on récolte et au moment où notre huile, elle est mise en bouteille, on essaie de ne pas dépasser 24 heures. Maximum, il faut que tout cela soit fait le plus rapidement possible, parce que il faut savoir que l'huile d'olive s'oxyde facilement en contact de l'air et de l'oxygène. Et donc, pour ces raisons, on essaye un peu d'accélérer notre notre production d'huile et notre embouteillage. Comme ça, on a vraiment une huile fraîche pratiquement pendant toute l'année.
Mmh. Alors justement, bon, vous m'avez dit que, enfin, et puis on l'entend, hein, ce que on en déduit que l'huile d'olive se goûte comme un vin. Alors justement, Amine Grandi, quelle est la meilleure façon de déguster l'huile d'olive? Car elle se déguste, hein, d'après ce que vous nous avez dit, elle se déguste.
Exactement, mmh. Exactement. C'est exactement, si vous avez des auditeurs ou si vous êtes vous-même, vous avez certainement dégusté du vin, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on déguste, on sent l'huile d'olive au nez. Il faut qu'on ait des sensations agréables de fruits, de légumes, d'herbes, de feuilles, de feuilles d'olivier parfois. Et après, on la déguste avec en bouche et on prend une petite gorgée d'huile d'olive et on essaye un peu de l'aérer comme exactement fait pour le vin. Et sauf que on peut avaler.
Oui, parce que j'allais dire, si on recrache l'huile d'olive, ça fait un peu gras. Hein.
Non, on avale l'huile d'olive et d'ailleurs, c'est à l'arrière de la langue qu'on commence. C'est là où il y a les récepteurs propres à ce type de goût et de sensation, d'ardence et de piquant et d'amertume. C'est à l'arrière de la langue, donc il faut vraiment tapisser toute la langue pour sentir. Et normalement, on doit sentir des sensations végétales ou des sensations de fruits mûrs, de bananes, d'herbes coupées. Donc, on a des sensations très agréables.
Et vous m'avez dit, oui, mettre sur une tartine, enfin, un morceau de pain, un peu d'huile d'olive.
Alors, si vraiment on veut se faire plaisir, mais d'une façon très simple, vous prenez une très bonne huile d'olive, vous prenez une petite tartine de pain légèrement grillée ou sortie du four, et vous mettez un petit filet d'huile d'olive avec une petite pincée de sel et vous goûtez. Et franchement, pour ne rien vous cacher, pour parler de moi, c'est mon goûter.
D'accord. Alors justement, pour parler de vous, OVA, c'est le nom de votre production. Alors comment peut-on se rapprocher de vous très vite, Amine? Peut-on commander? Avez-vous un site, des coordonnées à nous donner? Car on peut dire aussi que cette huile d'olive sert de base à des préparations que vous mettez aussi en vente, comme différentes tapenades, par exemple.
Exactement. Tapenades et caviar d'aubergine et caviar de légumes. Alors très simplement, vous allez sur ova.fr. Tout est expliqué, on a un formulaire de contact pour ne pas prendre beaucoup de temps. Vous allez sur le site ova.fr ou sinon, si vous voulez vraiment nous suivre avec toutes les vidéos de notre production et interagir avec nous avec des recettes très intéressantes, sur notre page Facebook, on a ova.fr aussi sur la page Facebook. Donc, retenez juste ova.fr et on a tout ce qu'il faut pour entrer en contact avec nous. On a des dates de différents salons, de dégustation, nos points de vente et ainsi de suite. OVA.fr, et je pense que c'est tout est noté sur notre site.
Voilà, OVA.fr. Amine Grandi, merci et je crois que vous êtes bientôt en partance pour la Tunisie, hein, pour la prochaine récolte.
Exactement, vous le dites très bien. Là, bientôt, la récolte, elle va, normalement, on doit partir début octobre. La récolte, elle doit débuter une semaine après et donc on croise les doigts pour avoir une récolte bonne et fructueuse surtout.
Merci Amine.
Merci à vous, merci Martine pour cet échange. Merci beaucoup.
OVA.fr, voilà, merci Amine Grandi.
Merci beaucoup, au revoir Martine.
Au revoir.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire, des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. barbelés des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent.
Échanger des connaissances et savoir-faire autour des techniques et de l'art photographique, c'est l'objectif de l'association Photaniflo située à Anzin. Dans son programme, cette association organise chaque année un événement rencontre, une grande exposition à Anzin. Je laisse à Jean-Philippe Robert la parole pour nous donner un petit peu plus de détails. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Martine. Alors, on expose comme chaque année à Anzin. Cette fin de semaine à la salle de fête de 9h à 18h et l'entrée est gratuite. Sur le thème partage, mais partage de la vie, car la photo, c'est pour la photographie de manière, le partage de la vie des oiseaux, bien sûr. Et la protéger est une évidence. Bien sûr, on ne supprime pas une vie pour le plaisir. Mais aussi, il y a les différents thèmes. Le partage du portrait, de l'architecture et tant d'autres, que les 60 photographes ont voulu exprimer avec 600 photos présentées. Donc, rendez-vous pour partager le vendredi 28, le samedi 29, le dimanche de cette semaine. On verra notre vie ensemble autour d'une photo, avec le sourire, bien entendu. Vous serez la bienvenue et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir Martine et merci de l'invitation.
Merci Jean-Philippe. Donc je rappelle que ce sera cette fin de semaine à Anzin à partir de vendredi soir, enfin surtout samedi, dimanche et lundi. Lundi je crois Jean-Philippe aussi.
Oui, puis on verra un petit café ensemble.
Tout à fait. Et puis voilà, donc à partir de vendredi donc à la salle des fêtes d'Anzin. Et puis je suppose qu'ensuite, Jean-Philippe, vous reprendrez l'appareil, surtout que l'automne est la saison la plus colorée, la plus contrastée, la plus flamboyante.
Eh ben oui, je suis sur le terrain et j'ai sorti de l'observatoire pour communiquer à Radio Plus la bonne nouvelle du partage que nous faisons, partage de la vie et nous protégeons nos animaux et tuer vraiment, c'est vraiment mauvais de tuer pour le plaisir.
Voilà, merci Jean-Philippe. Voilà, vous faites donc écho à la fois à ce que j'ai dit tout à l'heure et puis à Pierre Rose. Merci Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Bien, il me reste à vous souhaiter une très très bonne matinée. Oui, c'est l'automne, mais il y aura encore de belles journées dont il faudra profiter. En tout cas, très bonne semaine à vous. Et si vous le voulez bien, on se retrouve tout de suite après la pub pour Kaléidoscope.